podcast de l'UA.
Bonjour et bienvenue. Vous écoutez See More Blue, un podcast rattaché au séminaire de recherche du même nom, qui est basé à l'Université d'Angers. Je m'appelle Béné Meillon et je suis professeure des universités à l'UA à Angers, où je suis responsable scientifique du séminaire de recherche interdisciplinaire See More Blue. Alors pour l'année 2024-2025, je suis entourée pour la conception de ce podcast de deux jeunes chercheuses, Valentine Porcil, doctorante à Nantes Université, et Lucie Véju, étudiante en deuxième année du master Humanité environnementale à la NU également, et stagiaire à l'UA, dans le cadre du séminaire de recherche See More Blue, sur lequel repose donc la réalisation de ce podcast. Dans ce podcast, comme dans le séminaire de recherche éponyme, nous nous intéressons aux perceptions, aux représentations et aux imaginaires de l'eau, des mers et des océans. Pour ce faire, nous analysons des récits, des imaginaires et des représentations qui émergent de la littérature et des arts, mais également des sciences humaines, des études culturelles et des sciences dites du vivant. Nous convions ainsi des chercheurs et des chercheuses dont les travaux relèvent de disciplines variées à venir nous parler d'imaginaires océaniques et aquatiques pour plonger avec elles et eux dans des mondes bleus et pour bleuir ainsi notre compréhension du monde. Bonjour.
Bonjour.
On est là ce matin pour lancer le premier épisode, l'épisode pilote d'un nouveau podcast, le podcast See More Blue, dédié aux imaginaires des mers, des océans et des imaginaires aquatiques de façon large. Ben moi, c'est Béné Meillon. Je suis enseignante-chercheuse à l'Université d'Angers, où je suis spécialiste d'études anglophones. Alors, à dire vrai, je travaille surtout sur la littérature états-unienne contemporaine. Et je suis spécialiste d'un domaine qu'on appelle l'éco-critique et l'éco-poétique. Donc, pour faire court, je m'intéresse au lien entre la littérature et l'écologie et la façon dont les mondes autres qu'humains traversent la poétique des textes que j'étudie.
Bonjour. Alors, moi, je suis Valentine Porcil. Je suis doctorante en deuxième année à Nantes Université. Donc, je bénéficie d'un contrat doctoral qui est en partie financé par mon université et en partie par la région Pays de la Loire. Mon travail de recherche s'effectue sous ta direction, Béné, ainsi que sous celle d'Émilie Valézac, qui est professeure à Nantes Université. À l'occasion d'un autre épisode, je pourrais revenir plus avant sur ma thèse, son contenu et son intitulé, mais celle-ci s'inscrit dans le domaine des humanités bleues et plus spécifiquement dans le domaine de l'éco-critique bleue. Moi, mon intérêt pour l'eau est très, très important et remonte à ma petite enfance. J'ai été très marquée petite quand j'ai visionné le film Le Monde de Nemo au cinéma. Et cet intérêt s'est poursuivi de nombreuses années. J'ai dévoré tous les livres que je pouvais sur l'océan et regarder pléthore de documentaires animaliers et sur l'océan plus spécifiquement. Et j'ai voulu très longtemps être océanographe, mais malheureusement la physique chimie et moi, ça faisait un peu deux, donc j'ai renoncé à ce projet. Mais c'est finalement à travers la littérature que je retrouve ce lien, et donc j'en suis ravie.
Merci. Donc moi, c'est Lucie Véju, donc je suis étudiante en master 2 d'humanité environnementale, donc un tout nouveau master qui a été créé il y a 2 ans maintenant à Nantes Université, et j'ai la chance d'être la stagiaire attachée au séminaire See More Blue. Donc j'effectue des missions de communication, d'organisation, ouais. Donc j'ai la chance d'être un petit peu plongée dans le terrain et la construction du séminaire et du projet de recherche, ce qui est assez passionnant. Et mon stage est financé par la SFR Confluence, que je remercie. Pour moi, l'éco-poétique, je l'ai abordée en licence de lettres, et licence de lettres durant laquelle j'ai passé mon monitorat de voile. Donc, comme quoi j'étais prédestinée à travailler sur les imaginaires de l'océan. Et j'espère pouvoir écrire peut-être un mémoire de M2 en lien avec ces sujets. Voilà.
Oui, merci beaucoup, Lucie. On est très heureux d'avoir une stagiaire associée au séminaire Seymour Bloom. J'ai pas précisé comment j'en étais venue à travailler avec l'eau, alors pour pas être trop longue. D'une part, ça relève bien sûr d'une carence qui a été identifiée dans mon domaine de recherche. J'y reviendrai plus tard. Et sur le plan personnel, je crois que j'ai un rapport à l'eau qui est vraiment très fort. À la fois sur le plan corporel, je nage comme un petit poisson depuis l'âge de 4 ans, après avoir manqué de me noyer en tombant dans une piscine à l'âge de 3 ans. Et étrangement, je me rappelle très bien ce moment où j'ai coulé au fond de la piscine, pas du tout comme un moment de panique, et en fait, j'ai au contraire eu le réflexe de me laisser couler jusqu'au fond et de toucher le fond pour pouvoir pousser et mieux remonter à la surface et m'agripper au bord, où j'ai ensuite été secourue par l'une de mes sœurs qui avait été chercher une personne adulte. Et en fait, c'est intéressant comme histoire parce qu'à l'époque, on nous lisait les malheurs de Sophie. Et j'avais retenu cette scène où Sophie tombe dans un étang et s'en sort exactement de la même manière. Donc comme quoi, les histoires qu'on nous raconte peuvent littéralement nous sauver la vie. Et j'ai surtout un lien esthétique, psychologique et affectif très fort avec l'eau. Je crois que je ressens le besoin depuis toujours d'être près de l'eau, de la côtoyer. Même en ville, je cherche toujours à être près d'un fleuve, d'un canal, d'une rivière. Et surtout, dès que je peux, je vais à la mer. Et j'ai un peu la mer Méditerranée qui me coule dans les veines, et ce, à plus d'un titre. C'est à la fois notre grande mer universelle, ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment conscience. Et puis, c'est une sensation, faire corps avec l'eau, faire corps avec la mer, éprouver ce fameux sentiment océanique, ce qui est un sentiment d'accueil, en fait, ou de fusion qu'on ressent quand on se baigne en mer. C'est bien sûr intéressant sur le plan psychanalytique, mais surtout, c'est un lien que je cultive, parce que en bord de mer, dans l'eau, quand je nage, on se sent à sa place. Moi, je me sens à ma place, je me sens apaisée, sereine. Alors, je pourrais nager pendant des heures quand je suis avec mon masque et mon tuba. J'oublie que je ne suis pas un poisson, que je ne suis pas une algue. Et j'adore explorer les fonds avec masque et tuba en me laissant porter dans l'eau, où je peux dire que je me sens comme dans mon élément.
Merci beaucoup pour ces présentations. Peut-être qu'on peut commencer en expliquant tout simplement d'où est venue l'idée de lancer un podcast qui soit vraiment dédié aux représentations imaginaires de l'océan.
Oui, alors en fait, depuis 2015, je m'étais déjà engagée de différentes façons dans des activités de sensibilisation ou de médiation et d'échange avec le grand public, hors les murs aussi de l'université. Et c'est en lançant le séminaire de recherche Seymour Bloom que j'y ai pensé, puisqu'il y a Cédric Paquereau, qui est chargé de communication scientifique à l'Université d'Angers, qui est venu nous parler dans une réunion du podcast UA, déjà en place à l'Université d'Angers. Donc ça a fait naître l'idée. Bien sûr, j'aime bien le format un petit peu plus conversationnel du podcast, qui est sympa, qui est peut-être plus accessible aussi que la façon dont on communique parfois dans nos manifestations plus académiques. Et puis aussi, Valentine, qui est avec nous, donc, fait une thèse qui est adossée à une mission de médiation scientifique. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être, Valentine?
Oui, donc moi j'ai bénéficié d'un contrat qui est cofinancé par Nantes Université et par la région Pays de la Loire. Et la région Pays de la Loire invite les doctorants donc qui bénéficient d'un tel contrat à réaliser donc des actions qui s'appellent des actions de CSTI. Donc ce sont en gros des actions scientifiques et techniques. Et ce sont des actions de médiation auprès d'un public et souvent auprès d'un large public et qui n'est pas forcément versé dans le langage académique ou qui ne connaît pas forcément les questions que les doctorants abordent dans leur thèse. Il y a différentes médiations qui existent et de multiples actions possibles qui sont donc réalisables dans la région, et effectivement participer à des émissions de radio ou de podcast peuvent tout à fait en faire partie. Donc je suis ravie de faire ça.
Merci.
Oui, donc venons-en maintenant aux questions. Le séminaire s'appelle Seymour Bloom. Pourquoi ce nom a-t-il été choisi pour le séminaire Penny?
Oui, alors merci beaucoup de cette question. Et avant de répondre, je vais vous demander ce que vous entendez quand vous entendez Seymour Bloom ou quand vous le lisez.
Moi j'entends un peu un double sens. J'entends si comme dans voir, le verbe voir en anglais. Seymour Bloom, voir plus de bleu, parce que l'océan est pas circonscrit aux plages et aux littoraux. Pour moi, il est partout. Et donc, c'est un peu ce que j'entends dans ce titre. Et puis, Seymour Bloom, la mer plus bleue, c'est un peu aussi l'idéal peut-être d'une mer, je sais pas, plus, qui soit plus pur, plus propre.
Voilà. Ben en fait, t'as un peu tout dit. Chercher un nom court et évocateur pour un gros programme de recherche, qui est un programme tentaculaire, qui inclut à la fois le séminaire de recherche et d'autres projets, dont ce podcast. Il y a une thèse de doctorat portée par Macha Cano, qui sera notre invitée d'un prochain podcast. Le congrès ISOC que nous avons organisé en juin 2024 à Perpignan sur le même thème. Il y a un projet de recherche-création, plusieurs publications, tout ça sous le même chapeau, Seymour Blue. Et à l'origine de ce nom, en fait, je dois vous dire qu'il y a un jeu de mots qui m'avait marqué dans une nouvelle assez dérangeante. A perfect day for a banana fish. A perfect day for a banana fish. En français, on pourrait traduire une journée parfaite pour le poisson banane. C'est une nouvelle du aujourd'hui assez controversée J.D. Salinger. Et il y a ce moment où un personnage dit Seymour Glass. Et en fait, Seymour, c'est le prénom d'un des personnages, et Glass, c'est son nom de famille. Et ça crée par homonymie une confusion, il y a un quiproquo, et on ne sait pas si elle dit « voir plus de verre » ou si elle renvoie au personnage qui s'appelle Seymour Glass. Et ça, ça m'était resté. Ça a été un petit peu à l'origine de ce qui m'est venu quand je cherchais une formule accrocheuse, poétique, un acronyme éventuellement, pour le programme de recherche. Et comme tu l'as très bien dit, Lucie, c'est « si » à la fois la mère, on l'épelle comme la mère, S-E-A, mais c'est aussi, bien sûr, si, c'est voir, qui renvoie à notre perception. Alors, pourquoi bleu? Ben, bleu, on sait bien que la mer, elle n'est pas toujours bleue. Hein. Il y a tout un tas de discussions assez intéressantes sur la couleur de la mer, notamment chez les Grecs, où apparemment, elle n'est jamais bleue. Mais on le sait, la couleur bleue, la planète bleue, le bleu est devenu la couleur emblématique de la mer ou de l'océan, et plus généralement de l'eau. Un peu comme le vert est aujourd'hui souvent associé à la nature, à l'écologie ou au monde végétal et à la bonne santé des écosystèmes terrestres. Donc Seymour Blue, on a là une construction du point de vue de l'anglais grammaticalement un peu étrange ou déroutante. On ne sait pas trop si blue hésite entre un adjectif et un nom. Si c'était un adjectif, Seymour Blue, la mer plus bleue, comme tu as dit, Lucie. Eh ben en fait, les règles de formation du comparatif, en anglais, vous vous rappelez peut-être les règles de grammaire apprises au collège, voudraient qu'on dise « bluer » pour « plus bleu ». Et donc « Seymour Blue », c'est bizarre en fait. C'est fait exprès, c'est fait pour interpeller, faire réfléchir. Et bien sûr, faire réfléchir ou suggérer ce besoin de maintenir l'océan en bonne santé, voire de préserver aussi la qualité de l'eau que l'on boit, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la qualité de l'eau que nous buvons laisse à désirer. Et bien sûr, quand dans Seymour Blue, on peut penser à bleu en tant que substantif, plutôt qu'un adjectif de couleur qui renvoie au bleu, et qui voudrait dire peut-être voir plus de bleu, davantage de bleu, ou mieux percevoir la couleur bleue, ou ce que cette couleur symbolise, soit prêter davantage attention à la part bleue du monde, à sa part océanique, aquatique, qui est liée aux océans, au cycle de l'eau, et plus largement à l'hydrosphère. Alors l'intitulé court Seymour Blue, donc on l'a dit, qui est délibérément trouble du point de vue de la grammaire, c'est une invitation à se laisser déplacer, à changer de lunettes, à changer de prisme, pour accepter que nos repères habituels et terrestres se brouillent, et voir ce qui apparaît sous l'effet d'un bleuissement, si on peut dire, de notre perspective. Il s'agit donc de bleuir notre perception, nos représentations du vivant, en se focalisant sur des milieux marins, aquatiques, pour mieux accompagner les transitions qui sont nécessaires, à la fois au niveau de nos pratiques et de nos façons d'habiter la terre, qui est avant tout une terre-mère, plus bleue finalement qu'elle n'est verte. On rappelle souvent cette réalité géophysique de notre monde. L'océan recouvre environ 70% de la surface du globe. Et donc il nous faut bien admettre, hein, même si on se conçoit comme des animaux terrestres, des animaux humains bien sûr, mais des animaux quand même terrestres, que finalement nous habitons une terre qui est plus bleue que verte. Alors on a beaucoup parlé de cette question centrale posée par Bruno Latour dans certains de ses derniers travaux, où atterrir. Et je dis souvent, se pose la question suivante, en fait c'est plutôt comment amerrir aujourd'hui. Donc l'idée de ce projet, on le comprend dans le nom du projet, c'est d'essayer de voir combien les récits, les imaginaires et les représentations jouent un rôle dans notre capacité, notre désir à changer de paradigme, de mode de vie, pour donc préserver la santé de l'océan, qui, il faut quand même le rappeler, est la matrice de toute la merveilleuse toile du vivant, une toile qui est bleu-verte, sur une planète que Jeremy Rifkin a proposé de rebaptiser la planète Aqua. Donc on le sait bien, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Toute la vie a émergé de l'océan au cours d'une très très longue évolution. Notre Terre-mère est une Terre symbiotique. Je renvoie aux travaux de Lynn Margulis et peut-être à Rachel Carson qui, dans The Sea Around Us, je crois qu'il a été traduit par La mer autour de nous, renvoie, donc Rachel Carson en tant que biologiste, scientifique, qui parle de notre mère océan, Mother Sea, dans son ouvrage de vulgarisation scientifique qui nous raconte un petit peu l'histoire et la matérialité de l'océan.
Merci beaucoup pour cette réponse. Ça donne une belle perspective, un bel aperçu du contenu du séminaire. Est-ce que tu voudrais bien nous préciser un peu plus qui sont les personnes et quels sont peut-être les laboratoires aussi qui appartiennent au groupe de recherche Seymour Blue? Et puis, de manière plus générale, comment ils collaborent et peut-être aussi quels sont leurs objectifs?
Oui, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être pas pouvoir citer tout le monde parce que ce serait très long, mais disons que nous sommes nombreuses et nombreux. On se retrouve autour de l'idée de travailler sur une écopoétique avec des approches à la fois pluri, inter et transdisciplinaires, une écopoétique bleue donc, avec au moins une bonne vingtaine de personnes qui sont impliquées pour former le noyau dur d'une équipe qui est basée à l'Université d'Angers. Cette équipe est coportée par William Pillow, qui est historien au laboratoire et à l'UMR Témos, et qui coporte donc le séminaire de recherche Seymour Blue avec moi. À l'intérieur de l'UA, on a 5 laboratoires qui se sont retrouvés pour porter ce séminaire angevin. Donc les laboratoires sont le 3 LAM, qui est mon laboratoire à moi, donc le 3 LAM, parfois on dit le 3 LAM, qui regroupe essentiellement des gens engagés en littérature, en civilisation et en linguistique, à la fois anglophone, hispanophone, francophone, et avec des approches de littérature comparée. Il y a ensuite le CIRPAL, qui regroupe également des personnes à peu près du même profil, notamment des personnes anglicistes et spécialistes d'études de lettres. Il y a le laboratoire, l'UMR Témos, à laquelle est rattaché William Pillow, donc des historiens. Il y a le laboratoire ESO, qui regroupe des géographes, et le laboratoire CLIPSI, qui réunit des spécialistes de psychologie clinique. Alors, avec ces 5 partenaires, nous avons monté ce séminaire qui invite aussi, qui accueille la participation de collègues de laboratoire nantais, rattachés à l'Université de Nantes, notamment l'ISOMER, un laboratoire d'écologie marine, le LEMNA, un laboratoire qui travaille sur des questions d'économie et de gestion, le CRINI, donc le laboratoire auquel est rattachée Valentine Porcil, le CDMO, le laboratoire qui travaille sur le droit maritime et océanique, et encore d'autres laboratoires, des laboratoires qui sont disséminés dans différents endroits de la France. Je pense à l'Université Sorbonne Université, aux universités de Pau et des Pays de l'Adour, l'Université de Nîmes, d'Orléans et l'Université de Perpignan. J'en passe, on travaille aussi avec des collègues du Canada, notamment des collègues qui travaillent déjà en partenariat avec des collègues angevins sur les questions, les études portant sur le végétal, qu'on appelle souvent en anglais les « plant studies », et la phytopoétique, donc cette poétique qui s'intéresse à une poétique des plantes. Voilà, donc vous aurez compris pourquoi je ne cite pas tout le monde et je ne donne pas tous les noms, mais l'idée c'est vraiment de travailler ensemble à une approche inter, voire transdisciplinaire, des imaginaires, des mers, des océans et de l'eau. Nous cherchons à identifier le rôle de la littérature, des mythes et des arts, dans la formation de notre perception du littoral, de la mer et de l'eau. On s'intéresse aussi à des formes de représentation qui sont issues d'autres domaines, comme la géographie, l'histoire, le droit, les sciences, et qui viennent infuser notre perception des mers, des océans, de l'eau. Alors l'approche transinterdisciplinaire à laquelle nous invitons, d'une part elle est difficile, il faut la créer, il faut inventer des méthodologies, il faut se mettre d'accord sur les mots que l'on emploie, le sens qu'ils ont. On ne travaille pas les mêmes corpus, on n'a pas les mêmes cadres méthodologiques et conceptuels. Donc il y a un gros travail qui nous intéresse tout particulièrement en cette première année de lancement du séminaire. Et bien sûr, le but, c'est d'essayer d'élever le niveau de conscience quant aux enjeux d'un avenir pour nous dont on sait aujourd'hui qu'il sera bleu, qu'il sera océanique ou qu'il ne sera pas. Alors, on se repose aussi sur l'intuition que le caractère défamiliarisant des œuvres immersives qui nous plongent sous la surface de l'océan ou de l'eau ou d'autres étendues d'eau, que ces œuvres permettent de nous départir en fait du concept assez problématique d'environnement. C'est un concept contre lequel pas mal de penseurs et de penseuses ont écrit. Michel Serres du côté français, Jack Forbes du côté anglophone, moi-même, bien sûr, penser l'environnement comme quelque chose qui serait autour de nous et dont nous serions le centre fait partie des problèmes qu'il nous faut résoudre aujourd'hui. Et donc, une éco-poétique bleue invite à un certain nombre de déplacements, et notamment un déplacement ou plusieurs déplacements conceptuels que Mélodie Jew, entre autres, appelle de ses voeux. Alors, je vais reprendre un petit peu les mots de Mélodie Jew. Elle dit qu'il s'agit de trouver, je la cite, et dans une traduction qui est la mienne, puisqu'elle écrit en anglais, il s'agit de trouver une méthode pour délocaliser. Alors, en anglais, elle emploie le mot « dislocating », un verbe qu'on pourrait traduire par délocaliser, mais aussi par déloger, sinon disloquer. Donc, il s'agit de trouver une méthode pour délocaliser, disloquer une pensée qui s'est nourrie du monde terrestre pour la plonger dans l'océan. Alors, le processus peut impliquer, écrit-elle, une immersion physique, une immersion médiée par des moyens techniques, mais aussi une immersion spéculative par le truchement de la fiction, du cinéma, des arts numériques et des arts en général. Alors c'est pourquoi on va explorer des histoires de rencontres entre des mondes humains et aquatiques. On va prêter attention aux stratégies qui sont imaginées par les artistes pour éco-poétiser des mondes marins et pour inventer des histoires bleues. D'un point de vue narratologique, de la façon de raconter des récits, il convient d'analyser ces œuvres qui décentrent la perspective en mettant en scène des personnages autres qu'humains. On s'intéresse notamment à des questions de zoopoétique par le biais d'œuvres dont les personnages principaux sont des cachalots, des baleines, des dauphins, des pieuvres, des méduses, des palourdes ou encore du plancton. On va s'intéresser aussi à ces œuvres qui vont expérimenter avec des points de vue et même des voix autres qu'humaines, quand à partir du moment où les personnages ne sont plus uniquement, voire plus du tout, des humains. Et on va s'intéresser à ce déplacement zoocentrique qui, paradoxalement, est permis par certaines formes de poétisation et de narration, bon, qui demeurent certes inéluctablement anthropomorphiques, mais qui quand même essaient de faire ce trajet, essaient, tentent de se mettre à la place d'eux et de percevoir le monde, des mondes marins qui plus est, du point de vue d'animaux marins. Alors, cela permet d'élargir à la fois le cercle de nos représentations, et au-delà de nos représentations, le cercle de notre compassion aussi à des existences marines, et de dessiner peut-être les contours de cette éthique de la mer que promeut l'environnementaliste Carl Safina. Carl Safina, elle part de l'almanach du Comté des Sables, rédigé par Aldo Leopold, dans lequel il a dessiné sa fameuse éthique de la Terre. Et il revient sur la notion d'une communauté biotique qui inclut donc chez Leopold la Terre et toutes les espèces avec lesquelles nous cohabitons. Safina, elle, propose d'étendre cette conscience que nous avons ainsi de la valeur de nos relations et de nos interdépendances avec le monde autre qu'humain, en l'élargissant, cette conscience, au-dessous de la ligne dessinée par l'océan lorsqu'il est à marée haute, pour faire advenir une éthique de la mer. Alors, dans le même temps, d'autres chercheuses qui travaillent avec nous au sein du séminaire Simon Brew explore des propositions contemporaines autochtones et des fictions spéculatives qui viennent en de nombreux points brouiller les catégories et les règnes du vivant tels que nous pensons les connaître. C'est notamment le cas de ces œuvres qui imaginent des métamorphoses par lesquelles les personnages franchissent cette grande barrière, pour reprendre l'expression chère à Jean Giono, cette grande barrière qui est censée séparer les humains des animaux. On va regarder par exemple des histoires de shapeshifters, ces personnages qui sont capables de se métamorphoser en humains et en non-humains. Ou encore, on va s'intéresser à des personnages hybrides qui rappellent en cela les mythes très anciens, les mythes des sirènes, les mythes dans la culture celtique, des Selkies, les gorgones ou encore d'autres créatures légendaires. Et on va regarder comment ces mythes viennent troubler les standards réalistes et appellent par conséquent à des interprétations mythopoétiques, postcoloniales, notamment pour les récits qui reprennent ces mythes, qui les réécrivent, qui les régénèrent. Comment ces récits donc appellent à des lectures postcoloniales, des lectures écoféministes ou encore qui relèvent des écologies queer. Et donc tout ça, ça va nous permettre de mieux appréhender des histoires liminales, des histoires d'entre-deux, entre des devenirs océans, enfin, qui mettent en scène des devenirs océans inter- ou transpécifiques. Peut-être je vais revenir aussi sur d'autres types d'œuvres auxquelles on va s'intéresser. Là, j'ai beaucoup parlé d'œuvres contemporaines, mais en fait, dans le séminaire, on s'intéresse aussi à des œuvres canoniques. On peut s'intéresser à leurs adaptations, puisque on voit notamment Moby Dick qui ne cesse d'être adapté sous différents formats. Mais on va aussi pouvoir proposer de nouvelles lectures à l'aune d'une éco-poétique bleue. On peut songer, par exemple, à des textes très anciens, hein, sous la plume d'Homère, de Shakespeare, de Melville, de Hemingway, du côté francophone de Jules Michelet, de Victor Hugo, ou encore de Jules Verne. On a aussi des chercheuses qui sont impliquées dans les arts et la scène ultra-contemporaine de la performance ou des arts de la scène, de la danse, du théâtre, des arts visuels et multimédia, et qui s'intéressent notamment à l'histoire des arts ou à l'histoire de la danse, et voir un petit peu comment aujourd'hui il y a toute une production océanique dans ces domaines-là. Il y a aussi une certaine partie des artistes et universitaires impliqués dans Seymour Bleu, dont je suis, qui ont mis en place des démarches créatives à visée de médiation culturelle et scientifique dans le but de faciliter le ruissellement de nos activités scientifiques, voilà, dans des contextes ouverts à un plus large public. On a aussi des spécialistes qui travaillent sur des corpus très différents, en fait, pas forcément littéraires ou artistiques, qui vont de cartes, de récits de voyages à des mythes antiques. Bon, on peut dire que ça relève de la littérature. Et du côté de la littérature et des arts, on a des collègues qui travaillent sur l'éco-cinéma, sur la littérature de jeunesse, sur la bande dessinée, sur le roman graphique. On a bien sûr les historiens, je parlais de nos collègues qui sont rattachés à Thémos, qui apportent un regard diachronique particulièrement précieux pour l'étude de l'évolution des imaginaires marins, tandis que les géographes, eux et elles, vont venir nourrir des analyses qui tirent vers la géopoétique, là où la géographie rencontre la poétique, et notamment pour l'étude de récits de voyage qui ont largement contribué à façonner nos imaginaires marins et notamment les représentations des paysages du littoral. Les géographes peuvent par ailleurs éclairer les dynamiques instables qui modèlent les paysages du littoral et les paysages sous-marins qu'on a longtemps cru immuables. On a, je l'ai dit tout à l'heure, des psychologues aussi, cliniciens qui travaillent avec nous et des spécialistes de droit maritime qui peuvent contribuer pour leur part à l'analyse des manières dont les individus et les sociétés réagissent et s'adaptent face à un avenir qui est de plus en plus trouble, de plus en plus inquiétant, en lien par ailleurs avec la montée des eaux et en lien avec la montée de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Différentes formes de mal-être hein, qui sont liées à la crise écologique. Les écologues et les biologistes apportent, quant à eux et elles, une expertise sur l'état actuel des connaissances scientifiques. Et elles vont nous aider à réfléchir aussi aux représentations et aux imaginaires qui dominent aussi leur propre champ de recherche. Et notamment, on va réfléchir ensemble à la façon dont les méthodologies, les biais, les présupposés scientifiques sont amenés à être interrogés, à l'aune notamment de leurs expériences sensibles acquises au cours de leur terrain, puisqu'on travaille avec des biologistes qui vont au contact de la mer, voire qui doivent, pour leur terrain, s'y immerger. Et ce qui nous intéresse, c'est la façon dont le terrain contact peut peut-être remettre en question, venir déplacer leur méthodologie, leur façon de pratiquer la science et les présupposés scientifiques avec lesquels ils et elles sont censés travailler. J'ai parlé brièvement des études sur la jeunesse, de la littérature de jeunesse. On a à l'Université d'Angers un certain nombre de collègues qui s'intéressent à la jeunesse et on voudrait travailler bien sûr sur la jeunesse par le prisme des imaginaires bleus dans une perspective éducative. Donc on a un ensemble de spécialistes qui viennent d'horizons très variés et avec qui nous allons travailler ensemble de façon dynamique et constructive, inventer de nouvelles façons de travailler sur les imaginaires océanographiques. Et je voudrais préciser peut-être que du point de vue de l'éco-poétique, ce qu'on fait, c'est qu'on va convoquer un certain nombre de disciplines, comme toujours dans l'éco-poétique. Ici, la géographie sous-marine, la biosémiotique, l'éthologie, l'écologie marine et l'étude des paysages sonores, mais aussi des paysages haptiques, donc qui passent par le toucher, des paysages olfactifs, des paysages gustatifs qui sont spécifiques à la constitution des écosystèmes marins. Et on explore, donc en tant qu'éco-poéticien et éco-poéticienne, on explore comment les œuvres que nous étudions diffractent, prolongent, entrent en dialogue ou font écho, traduisent ces réalités biophysiques jusque dans la composition littéraire et artistique. Et j'ai parlé de collègues qui relèvent des domaines anglophones dont je suis. On a notamment pour mission de bien vérifier que notre séminaire, au niveau des travaux qu'on va y mener, s'inscrit à la pointe des recherches qui ont été déjà engagées, pas que, mais notamment dans le monde anglophone, sur les questions bleues, les humanités bleues, les wet studies, ces études mouillées, notamment donc dans le domaine des humanités et de l'éco-critique. Et un de nos buts en cela, c'est aussi de permettre un meilleur dialogue transatlantique entre la France et les pays anglophones, et la France mais aussi les pays francophones, pas que la France, et plus largement avec les Amériques. Parmi les objectifs aussi qu'on s'est donnés, nous avons constitué déjà une bibliographie fouillée. Précise qu'elle vient d'être mise en ligne sur notre site Hypothèse Éco-Poétique. Cette bibliographie vise à nous aider donc à bâtir un socle commun de connaissances théoriques, de lectures pour notre séminaire trans et interdisciplinaire. Ce n'est pas forcément une bibliographie qui peut prétendre à l'exhaustivité, mais on a voulu aussi la partager, et donc d'où la mise en ligne avec toutes les personnes qui pourraient s'intéresser aux imaginaires océaniques et aux humanités bleues. Je précise que ce fonds de documentation commun a été permis grâce à un financement obtenu par le CNRS dans le cadre d'un appel à projet Blue SHS, qui nous a permis donc de commencer de constituer un fonds de documentation partagé et qui va nous permettre, bien sûr, de façon vraiment essentielle, de consolider ensemble notre cadre théorique et conceptuel trans et interdisciplinaire, donc à la croisée des disciplines.
Donc, nous avons évoqué au début de cet entretien les humanités bleues, donc je me demandais si tu pouvais revenir sur ce terme et peut-être nous expliquer aussi plus avant qui sont celles et ceux qui, entre guillemets, bleuissent ce champ qu'on a très longtemps connu sous la couleur du vert. Et donc, quel type de discours et critiques ces chercheuses mobilisent-elles ?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, tout comme, voilà, il y a d'autres couleurs que le vert quand on pense à ce qu'on se représente comme appartenant à la nature. Il y a bien sûr d'autres couleurs que le bleu pour parler de l'océan. Mais bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est une façon un petit peu pratique hein, d'encapsuler, comme on dit en anglais, toutes les questions qui renvoient à l'eau ou à l'océan. Alors, il faut se rappeler que déjà, au cœur de l'éco-critique, il y a quand même une volonté d'étudier des textes où la nature autre qu'humaine est plus qu'un simple décor, plus qu'un simple environnement, qu'un simple arrière-plan pour des péripéties humaines. Ce qu'il y a, c'est que cela a été révélé, l'éco-critique, pendant longtemps, c'est beaucoup, comme les humanités en général, préoccupé de problématiques terrestres, vues de notre perspective d'humains habitants des écosystèmes terrestres. Ce bleuissement des humanités, avant d'en venir au bleuissement de l'éco-critique, on a vu, en fait, avec le tournant du siècle, depuis surtout ces 10 dernières années, l'avènement des humanités bleues. Comme tu l'as dit, Valentine, avant, on parlait beaucoup des humanités vertes. On parle parfois d'humanité environnementale pour les humanités vertes. Moi, j'aime bien, à la suite de Deborah Bird Rose, parler plutôt d'humanité écologique, puis je trouve que parler d'humanité environnementale, c'est encore une fois peut-être prolonger ou de façon insidieuse, en fait, hein, des perspectives anthropocentriques. Alors, je pense que quand on parle d'humanité écologique, c'est peut-être plus clair ce dont on essaie de parler. Et donc, l'avènement des humanités bleues a eu lieu sous l'influence de travaux signés par, on peut dire, les pionniers un petit peu hein, de ces humanités bleues et les pionnières. On peut penser à Steve Mentz Et puis, d'autres chercheuses très importantes, à Stacey Alimo, on peut penser à Dan Brayton du côté de l'éco-critique, à Cecilia Chen, à Dorothy Christian, on peut penser à Margaret Cohen, peut-être que j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, à Elizabeth Delauray, à Sydney Dobrin, qui a quand même écrit le premier ouvrage dédié à une éco-critique bleue, Blue Eco-Criticism. On peut penser à Soren Frank, à Stephen Helmreich, à Melody Jew, à Strida Neimainen, à Serpil Opperman, à Teresa Shuri, Jeremy Rifkin, Rita Wong, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas en faire une liste très exhaustive, là. J'ai fait une petite incantation quand même pour rappeler un petit peu certains et certaines des chercheuses vraiment très importantes pour l'essor de ce domaine de recherche. On voit bien, en fait, quand même, dans les humanités bleues, ce à quoi peut inviter un bleuissement d'un champ de recherche qui, comme tu l'as dit, Valentine, jusque-là était dominé par la couleur verte, qui renvoie par métonymie au monde terrestre, des forêts et du végétal. Les humanités bleues, pour faire court, appellent à délaisser nos paradigmes anthropocentriques et terrestres pour étudier la part bleue du monde qui échappe majoritairement à l'expérience humaine et constitue néanmoins l'essentiel de notre planète et de la vie dont nous dépendons, même en tant qu'animaux humains terrestres. Alors pour commencer, il y a en l'an 2000, Nicholas Hordern et Peregrine Purcell qui consacrent un ouvrage à une nouvelle histoire des humains en Méditerranée qu'ils ont appelé « The Corrupting Sea », donc « La mer corruptrice », « A Study of Mediterranean History », une étude de l'histoire de la Méditerranée. Et ils appellent de leur vœu une nouvelle thalassologie, « A New Thalassology ». Ensuite, dans « At the Bottom of Shakespeare's Ocean », donc « Tout au fond de l'océan de Shakespeare », publié en 2009 par Steve Mans, et tous ces travaux n'ont pas encore été traduits, et je pense que là, c'est le moment aussi de dire qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour nous autres, les francophones anglicistes, de traduction et un travail de passeurs et de passeuses ici. Donc, « At the Bottom of Shakespeare's Ocean », publié en 2009 par Steve Mans, il invoque cette nouvelle thalassologie et il dit qu'il s'agit, je le cite, de réécrire l'histoire culturelle de la mer. Alors Mans a notamment mis en exergue la nécessité pour les humanités bleues d'entremêler au moins trois types de discours critiques. Et ça, c'est vraiment fondamental quand on parle des humanités et d'éco-critiques bleues. Donc lui, il dit, quand on fait des humanités bleues, il faut entremêler les études qui portent sur la globalisation, puisque l'océan est planétaire. Il faut associé à cela les études postcoloniales, puisque les études postcoloniales sont intimement liées à l'histoire de la navigation et de l'océan. Et il faut y entremêler encore les études, alors il dit environnementales, je préférerais dire les études écologiques, auxquelles il ajoutera plus tard l'éco-critique et l'histoire des sciences et l'histoire de la technologie. Donc on voit que les humanités environnementales et les humanités bleues, en soi, ce sont déjà les humanités écologiques des champs profondément inter- et transdisciplinaires. Alors, concernant la démarche éco-critique, qui, il faut le rappeler, repose dès le départ sur la volonté de désanthropocentrer notre regard, Mans encourage un nouveau décentrement opéré par un éloignement de nos rivages. Il dit, je le traduis ici en français, qu'il nous faut trouver une façon de s'intéresser à la culture littéraire terrestre, mais vue du large, comme si nous étions capables de nous aligner sur l'élément eau.
Et dans ce champ des humanités bleues, justement, il y a une notion peut-être qui interpelle un petit peu, et puis je trouve qu'il peut susciter pas mal de questionnements, c'est la notion d'hydrophasie. Et je voudrais savoir si tu pouvais peut-être nous donner ta perspective sur cette question de pourquoi la mer, finalement, elle est souvent oubliée dans nos préoccupations humaines.
Oui, alors le concept d'hydrophasie, c'est un concept très intéressant, c'est bien sûr un néologisme, et si on réfléchit un petit peu de façon étymologique au sens que ce mot pourrait avoir, on voit bien qu'il s'agit d'une sorte de syndrome ou de trouble qui nous rend aveugles à la mer. Alors le terme apparaît sous la plume de Margaret Cohen, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est une enseignante-chercheuse en littérature à l'université de Yale aux États-Unis, et dans un article paru en 2010, elle déplorait déjà le peu d'études littéraires consacrées aux récits de voyages maritimes, alors qu'il y en a beaucoup, des récits de voyages maritimes. Et l'ampleur de cette lacune est telle, selon elle, qu'elle a proposé la notion d'hydrophasie pour désigner la tendance prépondérante du XXe siècle notamment, à oublier la mer dans le faisceau de nos préoccupations. Alors, comme l'ont déjà mis en évidence d'autres critiques, dont Margaret Cohen, la littérature nautique trahit souvent combien l'océan, en fait, au départ, a surtout fait figure de nouvelles frontières pour la modernité, et à quel point son exploration s'est souvent faite au nom de l'ancienne idée d'un exceptionnalisme humain. Margaret Cohen souligne par le concept oxymoronique « terraqueous » en anglais, la dimension terraquée du globe, sur l'expansion des civilisations européennes, la colonisation et la modernité capitaliste, qui auraient été impossibles sans l'océan et qui sont aujourd'hui répandues à travers le monde. Alors, dans le sillage des travaux de Steve Mans et de Margaret Cohen, on a vu paraître quelques monographies et des anthologies qui visent à redresser la barre et à mettre le cap de la littérature sur les rivages, mais aussi sur le grand large. Donc, c'est en ça que je citais tout à l'heure Dan Brayton, Christophe Singer, Randall Rourda, dans son Ocean Reader, et Soren Frank. Donc là, on est sur des ouvrages qui ont paru entre 2012 et 2022. On voit que c'est vraiment sur la dernière décennie. Dans le même registre, et en relisant Shakespeare dans une perspective éco-critique, Dan Brayton a repris à son compte et adapté une formule assez célèbre qu'on doit à Richard Louv, concernant le trouble de déficit de nature dont nous souffrons aujourd'hui dans notre rapport au vivant. En adaptant cette expression et cette notion de trouble de déficit de nature, Brayton a mis en évidence que les spécialistes de littérature souffrent d'un trouble de déficit océanique. Donc il s'agit d'un trouble de notre attention, ou d'un déficit de notre attention aux questions océaniques et maritimes. Dans la première étude consacrée à une éco-poétique bleue, donc Blue Eco-Criticism, Sidney Dobrin relance donc cet appel à développer ce que d'autres ont nommé d'abord les humanités maritimes, ou les wet studies, la nouvelle thalassologie, les études culturelles bleues, ou encore les études littéraires océaniques. Il démontre, je parle de Sidney Dobrin, démontre comment depuis l'influente éthique de la Terre qu'on doit à Aldo Leopold, dont je parlais tout à l'heure, on a vu aussi des études portant sur, je cite, le projet moral et politique vert, dont parle Greg Garrard lorsqu'il écrit sur l'éco-critique, et on a vu encore Timothy Morton parler d'une écologie reliée à la Terre, et on voit bien que toutes ces propositions théoriques, en fait, qui relèvent de l'éco-critique, traduisent globalement, là je cite Sidney Dobrin, une adhésion culturelle au terrestre comme moteur de l'idéologie environnementale. Et bien sûr, c'est problématique étant donné l'importance de l'océan pour l'avenir de la planète et pour l'origine même de la vie sur Terre. Donc Sidney Dobrin, lui, étudie dans son étude, ça donne lieu à des pages vraiment intéressantes et stimulantes, le langage qui domine en éco-critique et comment celui-ci vient trahir un biais implicite enraciné dans la Terre. Il veut pour preuve aussi de notre cécité académique aux questions océaniques le résultat d'une recension qu'il a menée de la revue IELE. Donc IELE, ça s'écrit ISLE. C'est la revue états-unienne dédiée à l'éco-critique, vraiment fondamentale pour notre champ de recherche. Et lui a étudié tous les numéros parus dans IELE de l'année 2010 à 2020. Et il a démontré que seulement 2% des articles de IELE à cette époque traitent de l'océan. De plus, selon Dobrin, une large part des études qui portent sur la littérature nautique repose en réalité encore sur des textes qui sont finalement très anthropocentriques, où il est souvent question de conquête, il est question d'affrontements héroïques entre l'homme avec son grand H, entre autres, et l'océan. Il y est question de maîtrise, il y est question d'exploration par d'intrépides marins, et in fine, il y est question d'exploitation des ressources océaniques. Alors, en réaction à tout cela, l'éco-critique bleue, promulguée par Sidney Dobrin, vise à, je le cite ici, à élargir la perspective éco-critique pour attirer l'attention de façon plus inclusive sur les questions océaniques, étant donné d'une part, écrit-il, l'immense corpus de représentations textuelles de l'océan qui contribue aux imaginaires culturels, et d'autre part, le rôle vital de l'océan au niveau des écologies du globe. Alors, je voudrais quand même revenir, parce que c'est vrai que Sandy Dobrin parle et cite le langage éco-critique très centré sur la Terre. Je voudrais quand même rendre justice aux travaux de Cheryl Glotfelty, pionnière de l'éco-critique, et qui parlait déjà dans son introduction à l'éco-critique, je la cite, d'une éco-critique qui englobe l'écosphère entière dans sa conception du monde. Et donc, bien sûr, quand on parle de l'écosphère, on parle aussi de l'hydrosphère et de l'océan, toutes les étendues, les masses d'eau impliquées dans l'hydrosphère. Donc, on comprend bien ici, on va chercher à développer davantage un nouveau courant d'études qui explore des textes qui s'appuient sur la biodiversité marine, sur les paysages sous-marins et côtiers, qui vont peut-être explorer le réchauffement des océans et la montée des eaux, l'acidification et la dégradation des habitats sous-marins, la surexploitation des ressources, la pollution des océans, une pollution qui est bien sûr chimique, mais qui est aussi sonore, les interactions entre des espèces endémiques et proliférantes dans des milieux marins, ou encore les mouvements migratoires à travers les mers.
Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces explications. Donc, pour continuer avec une question qui tente d'apporter des éclairages sur des concepts que tu peux mobiliser. Donc, il y a des chercheurs et chercheuses donc comme Astrida Nemanis qui a écrit Bodies of Water, corps d'eau, qui ont mis en lumière le trouble que l'eau jette dans les catégories, et elle pose donc le concept d'hydro commun. Peux-tu nous expliquer ce qu'elle entend par ce terme et quel changement de paradigme ce terme peut induire?
Oui, merci beaucoup Valentine. Bon, on entend bien quand même hydro, hein, que ce sont des questions liées à l'eau et que elle met cela en relation à la question des communs. Et bien sûr, voilà, c'est vraiment une question fondamentale ici. Alors en fait, Astrida Nemanis s'appuie et s'inspire aussi des travaux de Stacy Alimo, qui sont des travaux. Alors Stacy Alimo, on lui doit le concept de transcorporéalité. Bon, qui est un concept assez simple dans un sens, hein, où elle étudie en fait tous les échanges d'un corps à l'autre et entre les corps, des corps humains et ce qu'on a longtemps conceptualisé comme étant justement notre environnement. Ça remet complètement en question cette notion même d'un environnement et d'une nature autre qu'humaine qui serait autour de nous, puisque nous sommes complètement imprégnés par des particules et des composants qui nous viennent du milieu que nous habitons et donc avec lesquels nous sommes dans des échanges permanents, nous sommes très poreux. Donc voilà, ce phénomène de transcorporéalité de Stacy Alimo déjà nous amène un petit peu dans une conception post-humaniste, au-delà de l'humain, puisqu'on peut plus vraiment penser l'humain comme étant une entité singulière, séparée du reste du monde. Nous sommes des communautés biotiques, faites entre autres de bactéries, et impliquées, enchevêtrées dans des communautés non humaines. Et voilà, nous sommes aussi impliqués, enfin nos devenirs dépendent d'échanges permanents, transcorporéels ou transcorporels, avec le monde qu'on a tendance à penser comme étant autour de nous, mais qui finalement nous traverse à chaque instant, ne serait-ce parce que nous sommes obligés de respirer, de boire de l'eau et d'ingérer des aliments pour notre survie. Et puis bien sûr parce que nous passons notre temps à être au contact de virus. La pandémie, la crise du Covid nous a bien rappelé. Voilà, je vais revenir maintenant à Astrida Nemanis et sa proposition dans Bodies of Water. Alors c'est intéressant cette traduction de Bodies of Water, puisqu'en anglais, le terme Bodies of Water, body, c'est à la fois le corps humain, mais ce sont aussi les étendues d'eau, les masses d'eau. Et donc quand elle parle de Bodies of Water au pluriel, elle vient déjà nous titiller à l'endroit où nos corps finalement sont reliés à d'autres corps faits d'eau, d'autres masses et d'autres étendues d'eau. Elle déconstruit ainsi, avec ce Bodies of Water, principalement l'idée selon laquelle la notion de corps, qui chez nous renvoie principalement au corps humain, elle vient déconstruire cette idée-là. Elle démontre bien comment nos relations aquatiques existent à l'intérieur d'eux, nous, par ces relations aquatiques, nous existons, nos corps humains existent à l'intérieur d'eux, ou plutôt en tant qu'eux, partie intégrante de ce qu'elle appelle donc des hydro-communs. Et ces hydro-communs sont des hydro-communs plus qu'humains. Et ça vient bien sûr mettre à mal, bouleverser l'anthropocentrisme prévalent dans la modernité. et la mise en avant privilégiée de l'humain comme unique ou premier lieu d'incarnation. Alors si on suit un petit peu la pensée complexe, écoféministe de Astrid Anne-Meines, on voit comment elle nous amène à penser sentir avec l'eau et avec cette notion d'hydrocommun. Et en définitive, penser sentir avec cette notion, c'est prendre acte de nos existences incarnées qui sont toujours nécessairement plus qu'humaines, donc c'est pour ça que je parlais de post-humanisme, puisque entremêlées de toutes parts et sous des formes différentes et mouvantes, dans des substances autres qu'humaines, elles-mêmes affectées par nos activités anthropiques. Alors, penser sentir avec les hydrocommuns, ça nous oblige d'une part à reconnaître l'impermanence et la labilité des êtres et de la matière, puisque l'eau notamment, de par ses changements constants d'état, de solide, liquide à gazeux, est un élément particulièrement labile. Et en même temps, ça nous amène à prendre acte de nos profondes interconnexions. Ça nous amène à adopter des logiques de flux, des logiques de métamorphose et des logiques de devenir. Donc on voit comment ça vient un petit peu bouleverser là où la modernité s'est quand même érigée sur des concepts de fixité, de stabilité, de solidité. On a tendance à penser le corps humain comme relevant du solide, alors que quand même nous sommes faits essentiellement d'eau. Voilà, on voit comment ça vient bousculer donc tout un tas de concepts qui prédominent souvent dans notre façon de nous penser, de penser le monde. Et bien sûr, la notion d'hydrocommun interdit de fermer les yeux sur notre responsabilité écologique et sur les répercussions de nos modes de vie, de nos modes de production et de nos modes de consommation sur le reste de la planète, à commencer par ces hydrocommuns, par l'océan et même jusqu'au grand cycle de l'eau. Dans un même ordre d'idées, je reviens à Stacey Alaimo dans un ouvrage qui s'appelle « Exposed ». Elle souligne l'interconnexion qui relie entre elles toutes les masses d'eau, tous ces « bodies of water », les cours d'eau et nos corps aqueux, et elle révèle comment ces interconnexions nous permettent d'appréhender ce qu'elle appelle des réseaux de nuisances planétaires, « global networks of harm ». Donc on voit bien qu'ici, il y a aussi des implications d'un point de vue géopolitique, puisque sentir penser avec des hydrocommuns et de façon plus bleue, c'est se préoccuper aussi des injustices environnementales et, pour reprendre le terme de proposé en premier lieu par Rob Nixon, à la violence lente, cette violence insidieuse qui ne se voit pas d'un coup, qui est souvent liée à une pollution des écosystèmes et des milieux que nous habitons. Et cette violence lente, ça a été démontré, dont souffrent d'abord en premier les plus vulnérables, qu'ils soient humains ou non humains, qui pâtissent en premier des ravages de nos écosystèmes, ravages qui sont induits par des modes de vie inadaptés, et les modes de vie inadaptés qui sont en premier lieu ceux des plus riches et des plus puissants. Donc on voit que cette notion d'hydrocommun, c'est quand même une notion très importante d'un point de vue géopolitique. Et enfin, bleuir l'éco-critique et penser avec des hydrocommuns, c'est aussi se tourner vers des cultures qui ont longtemps été oubliées, marginalisées, dont les récits, les savoirs et les pratiques océaniques notamment. On peut parler de tous ces peuples qui ont longtemps habité des îles, les peuples des Caraïbes, mais aussi tous les peuples du Pacifique, et puis bien d'autres. Ces peuples océaniques, donc, qui possèdent en fait des savoirs, des pratiques et des récits, qui constituent à la fois une biodiversité culturelle, qu'il est important de préserver au même titre que la biodiversité naturelle, si l'on peut dire, dont on a l'habitude de parler et de se soucier. Et aussi parce que cette biodiversité culturelle, elle est susceptible de nous aider à sentir et voir de façon plus bleue et à pallier certaines de nos propres lacunes en tant qu'héritiers de la modernité occidentale.
Donc avec cette idée d'hydrocommun, tu nous as parlé du fait que l'eau est partout et que c'est un élément qu'on partage. Et justement, on partage aussi le fait que cet élément est mis en danger. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous résumer quels sont les enjeux les plus importants du changement climatique concernant les mers et les océans?
Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Je précise d'ailleurs que ça fait partie d'un gros programme prioritaire de recherche lancé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en France, et le CNRS, entre autres, avec tout un tas de laboratoires. Donc un PPR, programme prioritaire de recherche, qui s'appelle « Océan et climat », parce que précisément, toutes les études scientifiques montrent depuis bien longtemps que ce qu'on a longtemps appelé une crise climatique est étroitement lié et affecte la santé de l'océan. Il faut rappeler peut-être que l'océan recouvre presque 71% de la surface de la planète. On voit qu'en termes de surface, c'est vraiment énorme. On voit bien, quand on voit la petite bille vue de loin, à quel point elle est davantage bleue. Mais c'est surtout quand on s'intéresse à la profondeur. C'est-à-dire qu'en moyenne, la profondeur de l'océan est de 3700 mètres. Et en cela, l'océan offre en réalité 99% du volume offert à la vie sur la planète Terre. On comprend pourquoi Jeremy Rifkin propose de renommer la planète Terre la planète aqua. Alors, l'océan nous permet de respirer. On a longtemps parlé des forêts. Là aussi, très vert, très anthropocentrique et très terrestre, finalement, comme façon de penser le poumon de la planète, parce qu'en réalité, c'est surtout l'océan qui nous permet de respirer, étant donné que le phytoplancton, donc ces formes de vie microscopiques et donc végétales qui sont abritées par l'océan, produit plus de la moitié de l'oxygène de la planète. Et en outre, l'océan, et d'ailleurs c'est lié à la production d'oxygène et au phytoplancton, est le plus grand séquestrateur de carbone de la planète. Et donc l'océan séquestre tout ce carbone dont on sait qu'il est extrêmement polluant et qui joue un rôle essentiel dans le réchauffement climatique notamment, et ce carbone qui est produit en premier lieu par toutes nos activités anthropiques. Donc en fait l'océan c'est notre allié, à la fois il nous permet de respirer et à la fois il nettoie, il recycle et il séquestre une grande partie du carbone qu'on produit. Alors les enjeux du changement climatique sont vraiment indissolubles des menaces qui pèsent sur les littoraux et les écosystèmes marins et de façon multiple. Ce que les scientifiques ont démontré, c'est que le réchauffement du globe, on le comprend de façon assez évidente, participe de la fonte des glaces et donc de la montée des eaux. Il y a des endroits dans le monde où des lieux de vie, des îles sont déjà en train de disparaître sous le niveau de la mer. Ensuite, le réchauffement climatique induit un réchauffement de l'océan. Un réchauffement qui s'accompagne d'une acidification de l'océan. Les taux de pH évoluent de façon assez dangereuse. Ce réchauffement et cette acidification de l'océan vient bouleverser la circulation thermohaline. Alors, la circulation thermohaline, c'est la circulation de courants marins qui ont des températures différentes et qui circulent de façon différente en fonction de leur température et en fonction de leur salinité, du taux de sel dans les eaux. Alors, qui dit fonte des glaces dit aussi fonte d'eau qui ne sont pas des eaux salées. Donc, on voit comment on vient perturber, bousculer des cycles et des courants d'eau plus ou moins chaude, d'eau plus ou moins salée. Et bien sûr, tout ça, ça vient bouleverser l'océan, mais de la même façon, mettre en danger de nombreuses espèces qui dépendent de certains équilibres dans leur milieu de vie. Alors, on peut penser par exemple à l'acidification des océans qui ralentit la croissance et endommage ou tend à dissoudre les coquilles et les exosquelettes des crustacés et endommage leur capacité sensorielle. On peut aussi citer, parmi les nombreux impacts du réchauffement climatique sur l'océan, les nombreuses espèces qui peinent aujourd'hui pour leur survie en étant confrontées à des conditions de vie dégradées, dans des habitats déséquilibrés. On a parlé tout à l'heure de la pollution sonore très brièvement, mais bien sûr la pollution plastique, toutes les formes de vie marine qui s'empoisonnent puisqu'elles ingèrent des plastiques de tailles différentes. On assiste à l'effondrement de populations halieutiques, dont les populations de poissons, qui sont dues à la fois à la pollution et qui sont dues aussi à la surpêche et à tous les changements globaux qui affectent la santé de l'océan. On assiste au blanchissement des récifs coralliens qui sont quand même très très riches en biodiversité et essentiels pour la santé de l'océan. Et on voit bien en fait que tous ces problèmes sont interconnectés et on constate le risque d'extinction d'un nombre grandissant d'espèces marines ou qui vivent dans des zones océaniques. Hein. Je sais pas, les ours polaires, par exemple, on n'y pense pas souvent comme étant une espèce marine. Et bien sûr, il fait partie de toute cette mégaphone charismatique, emblématique, qu'on essaie de mobiliser pour sensibiliser aux dangers qui pèsent sur la planète et comment notre maltraitance de notre terre-mère met en péril de façon assez catastrophique, tragique, la survie de nombreuses espèces.
Merci beaucoup, Rémi, pour tout ça. Donc, il paraît effectivement vraiment impératif que nos regards se portent vers l'océan et nos considérations et vers tous ces peuples marins. Donc, concernant ces sujets, j'en reviens au logo Seamurple qui comporte notamment les tentacules d'une pieuvre. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à cet animal marin et pourquoi il en est venu à être un sujet d'étude?
Oui, alors merci beaucoup. J'en profite pour remercier le service de communication scientifique de l'Université d'Angers qui a été d'un grand appui pour la réalisation au niveau graphique de ce logo, Seamurble. Et bien vu, les tentacules de la pieuvre, hein, qui sont un petit peu comme des tentacules, un petit peu comme des cils. Pour moi, la pieuvre est un animal important. J'en ai fait un petit peu une sorte d'animal totem, et notamment parce que c'est un animal qui vient souvent à ma rencontre, sous différentes formes, à la fois ben, sous l'eau, hein, quand je suis à l'exploration, et puis dans mes rêves. Et en fait, j'ai une fois eu l'occasion de parler d'un de mes rêves à Linda Hogan, donc une autrice tchécossa sur laquelle j'ai travaillé, qui est tchécossa, donc issue d'un peuple premier, et qui m'a proposé une interprétation originale en fait de mon rêve. Et notamment, elle m'a dit, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses dans l'ontologie qui est la sienne, dans la vision du monde qui est la sienne, elle m'a dit, mais en fait, quand tu rêves de pieuvre, c'est que la pieuvre vient à ta rencontre parce qu'elle a des choses à te dire et il faut que tu en fasses quelque chose. Donc voilà, je vais pas plus m'attarder là-dessus, mais j'ai tenu à impliquer cet animal dans la conception du graphique de notre logo. Alors au départ, on a une pupille, donc on a un œil dans ce logo. C'est un œil dont la pupille est une planète bleue. C'est une façon de remettre la planète bleue au centre de l'œil. Et bien sûr, cet œil fonctionne sur un plan symbolique comme une métonymie de notre regard, regard qui est lui-même une métaphore de nos représentations et de notre conscience. Et comme tu le disais, Valentine, cet œil, il est doté de cils en forme de tentacules. Et cet œil, il invite en cela à déciler les yeux pour les ouvrir enfin sur la part essentielle du monde, la part bleue du monde. Et il vient remettre en question les notions même d'une planète Terre, la notion que nous avons de nos territoires maritimes. On voit bien qu'il y a un petit problème là. Bon, il y a Camille Parrain qui parle de méritoire, hein, plutôt que de territoire maritime. Et donc cet œil animalisé dans notre logo nous intime de sentir penser avec l'océan, à la manière d'une pieuvre. Et à la manière d'une pieuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord de façon synesthésique, en prenant en compte toutes les dimensions sensibles et pas seulement les dimensions visuelles des mondes aquatiques, y compris celles qui nous échappent, mais qui s'offrent aux animaux et aux plantes qui les peuplent. C'est bien sûr une invitation à s'intéresser aux reliefs sensibles de l'océan, plus encore que le relief sensible de la Terre, qui s'offre à lire bien autrement que par ces simples paysages visuels, et notamment pour nous, qui sommes plus ou moins aveugles sous l'eau, au-delà d'une certaine profondeur, et à partir du moment où l'eau est trouble. Alors, on va chercher à prendre en compte, c'est une invitation à prendre en compte les alliages sonores, haptiques, olfactifs, gustatifs, qui s'entremêlent dans l'étoffe sensible des mondes sous-marins, et qui viennent fréquemment s'entrelacer aussi dans certaines dimensions des récits et des œuvres qui sont composées avec l'océan. Donc il a quelque chose d'hybride, notre logo, quelque chose de queer même, on pourrait dire, d'étrange. Il est à la fois humain, il est à la fois animal. J'ai un collègue mathématicien qui a même qualifié le logo de monstrueux, à juste titre. En cela qu'il évoque en outre et à Essien les histoires de métamorphose, de chimères dont je parlais un petit peu tout à l'heure, histoires de métamorphose et de chimères qui pullulent depuis la nuit des temps, à la fois dans les mythologies à travers le monde et qui connaissent un renouveau aujourd'hui dans la fiction spéculative océanique, qui est souvent une fiction queer, qui vient troubler un petit peu toutes nos catégories et nos certitudes, une fiction écoféministe et ou des fictions postcoloniales. Donc on voit que ce logo, il est un petit peu comme le titre de notre séminaire, Seamurble, il est polysémique, il est aussi perspectiviste, il nous invite à adopter d'autres perspectives, par exemple celle d'une pieuvre. Et puis par une sorte d'anamorphose, hein, on peut y voir le devenir océanique de l'humanité, On peut y voir une planète méduse, hein, puisque les cils, ils sont aussi rattachés à la planète. Et on pourrait penser ici à Méduse, bien sûr, avec ses tentacules. Donc voilà, c'était aussi l'idée de proposer une planète méduse qui a été violentée. On se rappelle quand même de l'histoire de Méduse, hein, dans la mythologie. Une planète méduse qui est sensible et qui serait temps peut-être de cesser de maltraiter. Et on voit aussi dans ce logo la montée des eaux qui, à l'intérieur de l'œil, peut évoquer des larmes, en fait, la montée des larmes, les larmes que la montée des eaux fait couler, et bien sûr évoquer de façon un petit peu plus oblique la montée de l'éco-anxiété, de la solastalgie, de tout notre malaise, de la tristesse aussi qu'on peut éprouver, bien sûr, à voir des paysages qu'on ne reconnaît plus, toutes ces montées qui nous pressent elles aussi, en fait, d'ouvrir instamment les yeux sur notre interdépendance vitale avec l'océan.
Merci pour ces précisions. Et pour revenir sur le sujet du séminaire, qui est donc un séminaire qui porte sur les représentations et les imaginaires des mers et des océans, pourquoi avoir mis ces termes représentation et imaginaire au pluriel, alors que si je t'ai bien suivi depuis le début de ce podcast, ce que tu nous dis, c'est que l'objectif du séminaire, c'est de porter la vision d'un grand océan planétaire qui soit un et interconnecté.
Oui, alors ça c'est vraiment une excellente question et merci de la poser. Alors du point de vue scientifique, c'est très clair, on ne va pas parler de mer au pluriel et d'océan au pluriel. Les scientifiques nous encouragent, pour des raisons qu'on comprend très bien, à parler et à étudier le grand océan planétaire interconnecté, puisque il n'y a pas une rivière, il n'y a pas une pluie, il n'y a pas une goutte d'eau qui, quelque part, ne soit pas, à un moment ou à un autre, prise dans le grand cycle de l'eau. Et avec tous les changements d'état qui sont spécifiques à l'eau, en fait, qui ne soient pas partie prenante de ce grand océan planétaire interconnecté. Alors, pourquoi, dans ce séminaire, sachant cela, le sous-titre de Seymour Blue, c'est « Études inter- et transdisciplinaires » des imaginaires, des mers et des océans, ben, tout simplement, c'est vraiment pour insister sur le fait que, d'une part, une fois qu'on a dit, bon, il y a quand même un océan planétaire interconnecté, on sait bien aussi que, quand on est à la mer Méditerranée, c'est pas le même endroit, de plein de façons différentes que quand on est, par exemple, à l'océan Atlantique, et parfois, hein, ceux qui sont au bord de l'océan vont insister pour dire, ici c'est l'océan, c'est pas la mer. Les comportements, les marées, les vagues sont différentes, les écosystèmes sont différents. Et c'est une façon, d'une part, d'insister sur le fait que il y a des écosystèmes marins très différents. Que ces écosystèmes marins, s'ils sont en effet reliés au grand océan planétaire et au cycle de l'eau, de l'hydrosphère, ils sont néanmoins pris dans des existences et des spécificités locales, qui vont à la fois se manifester de façon au niveau du climat. La Méditerranée n'a pas grand-chose à voir d'un point de vue du climat, de plus en plus. Mais quand même, il y a beaucoup de différences entre un climat et la mer en Méditerranée, et puis la mer et le climat en Bretagne, par exemple. C'est la faune, c'est la flore, etc., qui va en être impactée. Et ces mers et ces océans, il en a émergé des imaginaires, des récits, des productions littéraires et artistiques qui sont ancrées dans des écosystèmes de façon très locale. Donc en fait, c'est aussi une façon d'aborder l'océan, certes d'un point de vue scientifique, comme un grand tout planétaire interconnecté, mais qui dépend en ce qui est de nos pratiques, de nos façons de l'appréhender, de relationner avec lui, de le concevoir, de vivre, de l'exploiter, qui dépend de perceptions, d'imaginaires et de représentations qui sont spécifiques à des lieux, qui sont influencés par des cultures qui ne sont pas des cultures globales et planétaires. Donc voilà, l'idée c'était un petit peu d'insister et de mettre en relief le caractère singulier, spécifique, d'imaginaires, de représentations et de productions littéraires et artistiques ancrées dans des écosystèmes et des cultures locales qui peuvent être extrêmement variées.
Merci beaucoup, Benny, et merci pour ce tour d'horizon qui nous donne mieux à voir et à entendre tout ce dont il sera question dans ce podcast. Une dernière question qui sera encore une fois assez personnelle et liée à ton travail, Denis. Tu travailles actuellement sur un projet de recherche-création qui consiste à danser avec l'océan en mer Méditerranée, dans l'Atlantique et le Pacifique. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît, en quelques mots?
Alors le risque, c'est que cet épisode pilote dure encore une demi-heure, donc je vais essayer de faire très court. Je vais préciser que ça fera l'objet à terme d'une exposition multimédia et d'une conférence à part entière dans laquelle on aura l'occasion de présenter ce projet de façon plus ample. Pour faire très court, il s'agit de mobiliser la photographie, l'écriture et la danse pour danser avec l'océan, renoncer à une maîtrise, notamment de la danse, pour aller voir ce qui se passe si on crée, c'est un petit peu une pratique de danse contact avec l'océan. Et je vais juste préciser que c'est un travail qui est pas individuel, mais que je travaille avec un collectif qui implique des personnes danseuses et non danseuses, qui implique des personnes scientifiques spécialistes des questions océaniques et des personnes non spécialistes de questions océaniques, et qu'il s'agit vraiment d'aller travailler ensemble, investir d'abord nos imaginaires individuels et partagés de l'océan, et après d'aller au corps à corps avec lui, et de voir comment de ce corps à corps peut naître une danse qui aura été co-créée avec l'océan, et qui peut-être nous servira à la sensibilisation d'un plus large public et à des activités à visée de médiation scientifique et culturelle en lien avec une éco-poétique bleue. Voilà, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on va clore cet épisode pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Valentine. On a une petite série de remerciements à adresser en fin de cet épisode pilote.
Oui, merci donc à William Pilot qui co-porte le séminaire See More Blue. Merci à Macha Cano, merci à Joël Vinciguerra, Denis Campedel, Ivana Cernanova, Nagia Agerou, Caroline Héroux, Mireille Loira, Nathalie Branchu. Et merci aussi à tous les laboratoires qui participent à ce séminaire et qui le financent. Donc 3 Lames, Temos, ESO, Clipsy et le CIRPAL qu'on a mentionné en début de podcast.
Voilà, et plus largement, merci à toutes les personnes qui nous auront peut-être écouté jusqu'au bout, et puis merci à toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de ce séminaire et ce beau partage autour de nos imaginaires océaniques. Ce podcast est enregistré avec le soutien de et dans les locaux de la MSH Ange Guépin à Nantes grâce à l'appui pour la technique de Goulven Labatte. Il est également soutenu par l'UA, l'Université d'Angers, et il est rattaché au séminaire de recherche interdisciplinaire See More Blue et dont les co-porteureuses Béné Meillon, moi-même donc, et William Pilot appartiennent au laboratoire Le Trois Lames et l'UMR Temos. Pour plus de renseignements sur notre séminaire, ses objectifs, ses activités de recherche, ses nombreux partenaires scientifiques et soutiens financiers à Angers, Nantes et ailleurs, rendez-vous sur le site écopoétique hypothèse.org où vous trouverez un onglet See More Blue assorti d'un menu déroulant qui vous permettra de naviguer en ligne et de prendre le large avec nous vers des imaginaires plus bleus. On vous souhaite du bon vent dans les voiles ou de prendre une bonne respiration pour plonger avec nous sous la surface de l'océan et dans des mondes aquatiques.